Aujourd'hui, c'est la fête des mères et on va parler de la femme. Parce que les principes, en fait, qu'on va voir, c'est, ça s'applique aux mamans, mais ça s'applique aussi aux jeunes filles et ça s'applique à toute femme qui est en vie sur la planète Terre, qui a déjà vécu sur la planète Terre et qui va vivre sur la planète Terre. C'est pas mal grand, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on va parler de la femme, la couronne de la création. Parce que, oui, toutes les femmes sont bien contentes ce matin. C'est bien, on va parler des vraies choses. C'est pas juste des belles paroles, mais c'est les vérités de la parole de Dieu. C'est basé sur la parole. Mais surtout, je pense que ça tombe bien dans un sens. La semaine prochaine, nous allons commencer notre série sur la vérité vous affranchira. Et une chose qui est dit par Dan Brown et par les autres personnes qui sont en train de promouvoir toutes les théories et les idées du code Da Vinci, exemple. Ils sont en train de dire qu'en réalité, dans le passé, notre monde était rempli, pas juste de Dieu, mais de déesses aussi, et que c'est le christianisme, à cause de ces hommes, on pourrait dire presque méchants, comme l'apôtre Pierre et ses compagnons, qui ont voulu écraser la femme et le féminin. C'est eux autres qui ont voulu effacer l'importance de la femme, etc. Mais en réalité, on voit dans la parole de Dieu et on voit dans l'histoire que c'est le contraire. Si jamais on regarde les religions de ce monde, on voit que la plupart des religions ont une tendance à opprimer les femmes. On a juste à regarder certaines cultures et une femme, dans le fond, elle vaut pas grand chose. Une femme a besoin de suivre plusieurs pas en arrière de son mari, jamais marcher à côté. On a toutes les sociétés où, laisse-moi vous dire, c'est tragique, mais même en Chine, et je pense qu'on a même un bébé chinois avec nous ce matin, mais vous savez qu'il y a toute une place où les personnes en Chine que si le bébé qui naît n'est pas un garçon, souvent les bébés sont abandonnés ou pire. Vous comprenez? Parce que les femmes n'ont pas la même valeur qu'un garçon dans certaines mentalités, dans certaines religions. Vous savez, ça c'est la réalité. La réalité de notre monde, c'est que la femme est souvent opprimée par la religion. Mais la vérité, c'est que dans la vie chrétienne, dans la parole de Dieu, dans les Écritures, on voit une autre histoire. On voit que la femme est honorée par Dieu. La femme a un rôle important à jouer dans la race humaine, mais aussi dans l'Église de Jésus-Christ. Et la femme est loin d'être opprimée par les enseignements de la parole de Dieu. Au contraire, la femme est élevée. Et ici, en Genèse chapitre 2, si on commence au commencement, Genèse chapitre 2, verset 1, c'est dans vos notes, verset 18, pardon. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Et puis, si on saute à verset 21, il dit, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Oh là là !» Non, c'est pas ça qu'il a dit. Et l'homme dit, ça c'est juste pour vous réveiller. Et l'homme dit, « Voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Donc je veux que vous compreniez une chose. Dieu venait de créer le monde. Il venait de créer toutes les plantes, tous les arbres. Il venait de créer même, quand il a dit, ici en Genèse 2, 18, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais faire une aide semblable à lui. Tout de suite après, les versets qu'on a sautés, on voit Dieu en train de créer les animaux et il fait passer les animaux devant Adam et Adam a la tâche de nommer les animaux. Donc, ça c'est les éléphants, ça c'est les chevaux. Il avait la job de nommer, de donner un nom à chaque animal que Dieu a créé. Et pendant tout cela, je crois que Dieu avait une stratégie. Il voulait faire quelque chose dans le cœur d'Adam. Il voulait que Adam ressente son besoin. Parce qu'il voyait à chaque fois qu'il voyait les animaux, il y avait deux chevaux, deux éléphants. Il y avait deux chiens, deux chats, deux de eux, un de moi, et à chaque fois qu'un animal passait devant lui, il ressentait de plus près le besoin d'avoir un compagnon, d'avoir quelqu'un, une aide semblable à lui. Et c'est pourquoi il a dit, voici cette fois. Je viens de nommer tous les animaux, mais cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair est appelée femme. Et qu'est-ce qu'on voit? Et c'est dans vos notes, c'est que la première chose qu'on va souligner, c'est que la femme est la couronne de la création de Dieu. La dernière chose que Dieu a créée, c'était quoi? C'était la femme. Après avoir créé la terre, après avoir créé les cieux, après avoir créé les étoiles, après avoir créé les animaux, les poissons, les oiseaux, toutes les choses qui existent sur la planète Terre, au-dessus de la planète Terre, après avoir tout créé, Dieu a créé finalement la femme, la couronne de sa création. Il avait toutes ses autres expériences, on pourrait dire, pour pratiquer, et il a perfectionné son œuvre avec la femme. Je sais que vous êtes contents. Mais n'oubliez pas une chose. C'est vrai, n'est-ce pas, messieurs? Si on est honnête, messieurs, on est d'accord avec ça, n'est-ce pas? On est d'accord avec ça. Notre orgueil ne veut pas l'admettre des fois, mais... Mais la bonne nouvelle, c'est que la fête des pères s'en vient aussi. Donc, on va voir l'autre histoire, l'autre côté du médaillon. Mais la femme est la couronne de la création de Dieu. En fait, Proverbe 18, 22 dit, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Proverbe 19, 14, « On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente. » Hein, c'est conditionnel. Une femme intelligente... est un don de l'Éternel. Il faut être vrai, hein? Donc la femme, c'est un don de Dieu. Dieu a créé la femme, c'était la couronne de sa création, c'était son chef d'œuvre, la cerise sur le dessert, on pourrait dire, n'est-ce pas? C'était vraiment la touche finale à sa création, la chose, on pourrait dire, la plus merveilleuse. Mais regarde bien que quand Dieu a créé cette femme, il a créé la femme avec les capacités et les puissances et les pouvoirs. C'est vrai, hein? La femme a une puissance remarquable pour influencer le monde. Combien de vous, vous avez remarqué que les femmes ont une capacité surtout de créer les environnements et les atmosphères? N'est-ce pas? C'est les femmes qui vont faire le nid souvent. C'est eux, les femmes qui, normalement, sont les mieux pour faire les décorations. Pas toujours, mais souvent, n'est-ce pas? Mais regarde bien une chose qu'on va voir. C'est qu'une femme, selon Proverbe 12, 4, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Donc, on voit quelque chose. On voit un paradoxe que la femme, qui est la couronne de la création de Dieu, la femme a une capacité... soit de faire énormément du bien ou de faire énormément du mal. Ça, c'est la vérité, n'est-ce pas? Regarde bien, il y a d'autres versets là-dessus. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc, on voit qu'une femme est douée avec une capacité d'exercer une influence incroyablement puissante dans le monde, soit pour le bien, soit pour le mal. Et on voit cela dans la parole de Dieu, partout en fait. Proverbe 31, verset 10 dit, « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. » Donc là, on parle d'une femme vertueuse qui a la capacité de créer un foyer, de créer une atmosphère merveilleuse et de faire du bien à son mari. Mais la Bible dit aussi, je ne l'ai pas mis dans vos notes, juste par respect parce que c'est la fête des mères, que c'est mieux d'habiter en coin dans toi que d'habiter une maison avec une femme querelleuse. On voit que la femme, il y a une raison pour cela. C'est parce que la femme est créée avec une capacité d'influencer son entourage et surtout d'influencer les hommes. Ça a pris une femme pour devenir la mère de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Quelle influence que Marie a eue sur le monde. Mais ça a pris aussi une femme pour séduire Adam et pour séduire Samson, qui était doué et qui avait un don de Dieu, une puissance, une force qui venait de Dieu. Donc, je pense que, mesdames, il faut que vous compreniez jusqu'à quel point vous êtes puissantes. Et que vous avez une capacité divine d'influencer votre entourage. Mais c'est comme n'importe quelle force qu'on a. Une force qui est mal utilisée est dangereuse, mais une force qui est bien utilisée, ça fait énormément du bien. Amen. Gloire à Dieu, on te remercie Seigneur pour les femmes vertueuses. Alléluia. Une autre chose qu'on voit dans vos notes, c'est que notre attitude envers la femme peut influencer les bénédictions de Dieu dans notre vie. On sait que la femme, c'est la couronne de la création de Dieu. La femme a une influence importante dans la vie. Mais aussi, notre attitude par rapport à la femme va déterminer si les bénédictions de Dieu vont couler dans notre vie ou si les bénédictions vont être bloquées ou arrêtées dans notre vie. On voit cela plusieurs places dans la parole de Dieu. Dieu exhorte les enfants et surtout les jeunes hommes à écouter et à suivre les enseignements de leur mère. Et on sait que si on honore nos pères, si on honore nos mères, que les choses vont bien aller pour nous sur la terre et on va vivre longtemps sur la planète aussi. Ça, c'est en fait le premier commandement avec une promesse, n'est-ce pas? Il faut honorer nos mères. Mais si on peut aller même plus loin, dans le contexte d'une relation entre un homme et une femme dans le mariage, messieurs, si nous ne savons pas que notre femme, c'est la couronne de la création, qu'elle est digne d'honneur, elle est digne de respect, qu'elle est en hérité avec nous de la grâce de la vie, si on n'a pas une bonne attitude envers nos épouses, la parole de Dieu dit que les bénédictions de Dieu vont être bloquées dans notre vie. Ce n'est pas moi qui invente ces choses. 1 Pierre 3, 7 dit, « Quant à vous, Marie, essayez, c'est dans la parole vivante, essayez de comprendre vos femmes. » Une femme, c'est une création merveilleuse, mais une création complexe aussi. N'est-ce pas? Il y a une raison pour cela. Elles sont créées de même. Elles sont créées complexes, mais c'est bien. C'est une bonne chose, c'est positif. Je ne veux pas dire des choses qui vont offenser les gens, mais dans le fond, on sait que quand un bébé est en train de développer dans le ventre de maman, que tous les bébés commencent essentiellement le même, sauf que ceux qui sont les mâles, à un moment donné, vont avoir quelque chose d'intéressant. Ils vont avoir un bain de testostérone, littéralement, qui se passe au niveau du cerveau, et ça va faire un genre de ligne dans le cerveau. Et c'est pourquoi le côté droit et le côté gauche du cerveau dans un homme est plus prononcé la plupart des fois chez l'homme que chez la femme. C'est pourquoi une femme est capable d'accéder à la fois le côté émotionnel et le côté logique et tout se passe en même temps. Une femme est capable de faire plusieurs tâches à la fois avec son cerveau. Tandis que la plupart des hommes, on est plus catégorique, n'est-ce pas? On fait ça, puis on change de compartiment, on fait ça, et on fait ça. N'est-ce pas? Tandis que les femmes sont en contact avec tout ce qui se passe en même temps. C'est plus complexe, n'est-ce pas? Mais ça, c'est pas mauvais, c'est une bonne chose, et c'est une force pour nous, messieurs, parce que des fois, on manque de sensibilité. Des fois, on manque, qu'est-ce que Dieu veut nous dire, même? Et ça prend une femme, des fois, pour nous aider. Mais mesdames, laissez-moi vous dire, c'est votre tour maintenant. Des fois, vous êtes trop émotionnels et ça prend un homme pour vous aider aussi. et on se complète, n'est-ce pas? Alléluia. Mais quant à vous, Marie, essayez de comprendre vos femmes. Ayez beaucoup d'égard pour elles dans votre vie commune. Souvenez-vous qu'elles ont une nature plus fragile, et on parle physiquement ici, et plus délicate. Traitez-les avec respect et honneur. Non seulement parce qu'elles sont plus faibles, et on ne parle pas de faibles dans un sens spirituel et émotionnel, mais on parle d'un sens physique surtout, mais parce qu'elles héritent avec vous la vie éternelle et que Dieu vous accorde dans sa grâce. Sinon, vous mettez vous-même obstacle à l'exaucement de vos prières. Savez-vous que si on n'est pas en train de vivre avec sensibilité, avec honneur et respect par rapport à nos femmes, que nous mettons un obstacle à l'exaucement de nos prières. Ça, c'est assez grave, n'est-ce pas? Puis une autre chose qu'on voit dans vos notes, c'est que les hommes sages ne rejetteront pas les enseignements des femmes. Et là, je parle bibliquement. Et messieurs, c'est votre occasion de dire amen. Proverbe 1:8. C'est pas moi qui invente ces choses, donc si vous voulez me lapider, c'est correct, mais attendez la fin du message au moins. Écoute mon fils. OK? C'est Dieu qui parle et c'est écoute mon fils l'instruction de ton père. Papa a un rôle important à jouer, n'est-ce pas? Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Proverbe 6:20 dit, « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Pourquoi est-ce que Dieu nous exhorte de ne pas rejeter l'enseignement de la mère? Parce que nous avons une tendance à rejeter l'enseignement de maman. Mais maman est souvent plus sage que nous, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'elle nous enseigne aussi longtemps que c'est une femme qui enseigne les choses selon la parole de Dieu? C'est des choses dignes de confiance. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cou. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Ils te parleront à ton réveil. Moi, je pense qu'on devrait tellement bien enseigner par la parole de Dieu, mais aussi on devrait se laisser exhorter, encourager par pas juste les hommes, mais les femmes aussi. C'est sûr que je ne parle pas d'une femme qui va exercer une autorité, parce que la Bible en parle aussi. Paul parle de cela aussi, qu'une femme ne devrait pas exercer une autorité sur son mari. Une femme ne devrait pas dire « Assieds-toi! » C'est comme le monsieur qui a dit « Oh, ben. » C'est comme le monsieur qui a dit, c'est moi qui est le chef de la maison, c'est moi qui est la tête de ce foyer, c'est moi qui est le chef de notre union. Et pour le prouver, je refuse de sortir d'en dessous de ce lit. Non. 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 Vous savez, la femme n'est pas supposée d'exercer une autorité sur son mari. Mais un bon mari qui est sage va écouter sa femme. Mais pas écouter sa femme à tout prix non plus, comme Adam a fait. Il y a un équilibre dans ces choses. Mais quand même, moi je sais, moi je suis le chef de notre foyer, il n'y a pas de question, c'est moi qui est l'homme de la famille, mais j'ai souvent, et sur une base régulière, je consulte mon épouse et on prend des décisions ensemble. Je demande son opinion. Ma femme est très sensible aux choses de l'esprit. Elle connaît la voix de Dieu. Elle sait des choses que moi, je ne sais pas. Donc, moi, souvent, je lui pose des questions. Je lui demande son opinion. Ça, c'est juste la sagesse, n'est-ce pas? Donc, et c'est une manque de sécurité. Un homme qui refuse de faire cela, c'est parce qu'il manque de sécurité. Il a besoin de prouver que c'est lui le chef. Il reste en dessous du lit. Non. Amen. Proverbe 31, verset 30, deuxième page de vos notes. Je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre des femmes. La parole de Dieu est claire là-dessus. Contraire à ce que quelques-uns disent, la parole de Dieu dit souvent Il donne souvent les exemples des femmes vertueuses, les femmes de Dieu qui ont été prophétesses, qui ont été leaders, qui ont été des personnes clés dans l'Église, clés dans l'Ancien Testament, les personnes qui ont joué les rôles indispensables dans la parole de Dieu. En Proverbe 31:30 dit « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Et aujourd'hui, j'aimerais juste finir notre message en donnant quelques exemples des femmes vertueuses, les femmes de la foi, les femmes que Dieu a soulignées dans sa parole. Et ça, c'est juste quelques exemples. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la parole de Dieu. Je pense qu'on a des leçons à apprendre et on n'a pas à rejeter les enseignements. Pas juste de qu'est-ce qu'ils enseignent verbalement, mais qu'est-ce qu'ils nous enseignent par l'exemple de leur vie. Si on pense à Sarah pour commencer, Sarah qui était la femme d'Abraham, qui est le père de la foi, de notre foi, on voit que Sarah peut nous enseigner quelque chose. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Ayez foi en Dieu malgré les circonstances. Merci Seigneur qu'on avait cette femme vertueuse qui a cru à l'impossible, qui a cru qu'elle était capable de concevoir, même si elle était avancée en âge, même si physiquement c'était pas possible, elle a cru malgré les circonstances, comme Hébreux 11:11 dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui l'avait fait la promesse. Et je pense qu'on peut apprendre des bonnes leçons de Sarah ce matin, n'est-ce pas? Combien de vous, avez des circonstances difficiles dans votre vie, apprenez la leçon de Sarah, ayez foi en Dieu malgré les circonstances. On peut apprendre aussi la leçon de Rahab. Rahab, c'est intéressant aussi parce que Rahab, on pourrait dire, c'est une femme de la foi. Mais le commencement de sa vie n'était pas tellement respectueux. C'était une prostituée parmi les païens qui habitait à Jéricho. Mais Rahab, quand elle savait que Dieu voulait donner la vie de Jéricho aux Israélites, au lieu de résister, au lieu d'essayer juste de se protéger, au lieu de résister au plan de Dieu, elle a coopéré avec le plan de Dieu. Et en coopérant avec le plan de Dieu, elle a réussi son futur et elle a réussi aussi le futur de sa postérité. Et qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est de savoir que Rahab est devenue même une personnage dans le lignage de Jésus. Dans le lignage de Jésus. On voit que si on peut tracer le parenté de Jésus-Christ, que Rahab se trouve là dans ce regroupement de personnes. N'est-ce pas merveilleux que Dieu est tellement bon, tellement miséricordieux, qu'il a choisi une femme païenne qui était prostituée même et qu'il a transformé sa vie et qu'elle est mentionnée en Hébreux 11 parmi tous ces autres héros de la foi. N'est-ce pas merveilleux? Ça a changé votre vie, ça a changé ma vie. Nous sommes ici ce matin parce que Rahab a coopéré avec le plan de Dieu. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Puis, on peut recevoir les enseignements aussi et les exemples de Déborah. Est-ce que vous vous rappelez de Déborah? Les enfants de Dieu n'avaient pas de roi, c'était dans le temps des juges, et tous les autres leaders, tous les autres hommes ne prenaient pas leurs responsabilités. Les Juifs étaient opprimés par l'ennemi, mais ça a pris une femme qui avait assez de courage, assez d'audace pour prendre sa place et pour devenir leader d'Israël. Et on voit en fait qu'elle a fait tout ce qui était nécessaire pour gagner le respect des gens avant d'essayer de les diriger. Tu as juste à lire l'histoire de Déborah une autre fois. Mais en Juges 5:7, les chefs étaient sans force en Israël. C'est de valeur, n'est-ce pas, quand les hommes ne prennent pas leur place? Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Merci Seigneur pour les mères en Israël. Je pense qu'on a besoin de ces mères en Israël aujourd'hui, même dans le sens de l'Église. On a besoin des femmes qui sont prêtes à prendre leur place dans le corps de Christ comme un exemple pour vivre une vie digne de respect. Ils vont gagner le respect, pas juste des autres femmes, mais aussi des autres hommes. Et on va pouvoir faire beaucoup de progrès et avancer dans le royaume de Dieu. On peut apprendre les leçons aussi d'Esther. Vous vous rappelez d'Esther, n'est-ce pas? Toute la race juive était menacée. Il y avait un complot pour tuer tous les Juifs. Et c'était vraiment grâce à Esther que les Juifs ont été sauvés. Esther qui a été choisie pour être la nouvelle reine, pour remplacer la reine Vashti, elle a été choisie et personne ne savait qu'elle était juive. Personne n'était au courant de ce complot. Mais elle avait besoin de faire quelque chose qui a pris beaucoup de courage, qui a pris beaucoup, beaucoup de force en fait. Elle avait besoin d'aller se présenter devant le roi sans être invitée. On dit, mais c'est quoi la femme? Mais vous savez que une femme qui se présentait devant le roi sans avoir la permission était tout de suite tuée, à moins que le roi a éteint son sceptre pour dire « c'est correct, je te reçois ». Elle a pris une chance. Elle savait qu'elle pourrait peut-être mourir, mais elle a dit que « ma vie n'est pas aussi importante que la vie de toute ma nation et de toute la race d'Israël. » Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il faut avoir du courage pour faire avancer le royaume. Ici, en Esther 4, 16, « va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Dis-moi pas que les femmes sont faibles. Ça prend du courage, n'est-ce pas, pour une femme de dire, « Je vais faire ce qui est nécessaire pour sauver la nation, et si je péris, je vais périr. » Quel courage! Je pense qu'on a des choses à apprendre, même nous les hommes, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes là, messieurs? Ça, c'était votre occasion de dire oui, amen. Rejette pas l'enseignement de ces femmes. On pense à Ruth. Ruth nous enseigne qu'il faut être fidèle à ceux que nous aimons, nous aimons même jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Vous vous rappelez de l'histoire que Ruth était avec sa belle-mère, Naomi, que son mari était décédé, son beau-frère est décédé et son beau-père est décédé. Donc, elle se trouve là avec sa belle-sœur et avec sa belle-mère. Et sa belle-mère dit, « Vas-y, retourne dans ton pays. Moi, je vais aller dans mon pays. Va trouver un autre homme. » Je paraphrase. « Fais ta vie, mais laisse-moi, je vais aller rejoindre ma parenté. » Mais qu'est-ce que Ruth a dit? C'est tellement, tellement merveilleux. En Ruth 1, 16, Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort viennent à me séparer de toi. » Quel amour que cette femme nous enseigne. Quelle fidélité qu'elle nous démontre. Moi, je trouve que c'est de valeur, mais là, c'est une femme qui parle à sa belle-mère. Combien de vous êtes prêts à faire un tel engagement à votre belle-mère? Hein? Il faut dire oui, hein? Votre belle-mère est là. Si votre belle-mère est ici, dis oui! Mais vous savez qu'est-ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société, on a de la difficulté à trouver un homme qui est prêt à dire cela à une femme. Que je vais rester avec toi jusqu'à la mort. Mais on voit ici une femme vertueuse qui nous enseigne la signification de la fidélité. Je vais rester fidèle à toi, même, c'est juste ma belle-mère, mais je vais rester fidèle à toi jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Je pense que, messieurs, on a quelque chose à apprendre. On a quelque chose à apprendre de cette femme. Alléluia. Numéro 6, on pense à Anne. Anne qui était stérile, qui ne pouvait pas avoir un enfant, mais qui a prié et a promis de consacrer son enfant à Dieu si le Seigneur lui accorderait la joie d'avoir un enfant. Et on apprend de elle l'importance de consacrer à Dieu ce qui est le plus cher à nous. Est-ce que vous avez quelque chose dans votre vie qui est si cher, si précieux, que vous n'êtes pas capable de le confier à Dieu? On a un exemple ici de Anne qui dit, c'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Imaginez quel sacrifice qu'elle fait. Finalement, elle a un enfant, elle amène cet enfant pour être consacré à Dieu pour toute sa vie. Ça, c'est un exemple à suivre, n'est-ce pas? Combien de nous avons des choses qui sont tellement chères à nous qu'on n'oserait pas les confier à Dieu, mais Dieu nous dit qu'il est plus important que lui-même, que c'est un idole. Donc, on apprend ici l'importance de consacrer à Dieu tout ce qui est le plus cher à nos yeux. Numéro 7, on parle de Lydie. Vous savez ce qu'est Lydie? C'est la première femme en Macédoine qui a reçu l'Évangile. Quand Paul a eu une vision dans la nuit de la Macédoine, en fait, c'était un homme dans la vision qui disait, « Viens ici, on a besoin d'aide, au secours, je paraphrase. » Mais quand ils sont arrivés, ils ont trouvé un groupe de femmes à côté de la rivière, un groupe de femmes qui priaient, qui cherchaient Dieu. Combien de fois c'est le cas? Les femmes sont les personnes qui vont être assidues dans la prière. Les femmes sont celles qui vont garder les choses du Seigneur. Si on regarde traditionnellement, dans la plupart des églises, on ne parle pas nécessairement de cette église, dans la religion, c'est souvent les femmes qui vont garder les yeux sur le Seigneur, qui vont essayer d'être le leader spirituel pour leur famille. N'est-ce pas vrai? Mais c'est vraiment pas supposé d'être comme ça. C'est l'homme qui est supposé d'être le leader spirituel dans le foyer. Mais ici, on voit que souvent, dans les voyages missionnaires de Paul, c'était les femmes qui étaient les premières à répondre à l'Évangile. C'était Lydie ici. Ailleurs, en Actes chapitre 17, je vais lire un verset en Actes chapitre 17, qui dit verset 12, « Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction, et beaucoup d'hommes. » Vous savez, il y a plusieurs versets comme ça, on voit, c'était les femmes en verset 34. « Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Dénis, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. » Donc, Paul parle souvent des femmes qui étaient parmi les premiers à recevoir l'Évangile. Pourquoi est-ce que ça c'est important pour nous? Parce que je pense qu'on peut apprendre la leçon qu'il faut avoir un cœur sensible afin d'accueillir la parole de Dieu. Les femmes sont reconnues pour être plus sensibles souvent aux choses de l'esprit que les hommes. Est-ce que vous êtes là? Souvent, les femmes sont plus sensibles parce qu'elles sont capables de décrocher, on pourrait dire, de côté logique. Et ils sont capables d'entendre les choses dans le cœur, pas juste avec le cerveau. Les hommes, des fois, on est trop logique. Et si on ne comprend pas, on n'accepte pas. Mais les femmes, souvent, ont cette capacité d'être sensibles. Et c'est pourquoi on voit partout dans le Nouveau Testament, c'était souvent les femmes qui avaient des rôles importants à jouer. Il y avait des femmes qui avaient des maisons, des églises dans les maisons. Il y avait des femmes qui servaient l'apôtre Paul. Il y avait des femmes qui suivaient le Seigneur Jésus pour pourvoir à ses besoins. Il y avait toutes sortes d'exemples dans le Nouveau Testament des femmes qui étaient sensibles. Actes 16, 13 dit, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, et vous savez que le pourpre, c'était un tissu qui était pour les riches et pour les personnes d'importance de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Les femmes sont souvent plus attentives à ce que dit le Seigneur. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. On a des choses à apprendre de Lydie. On a besoin d'apprendre à avoir un cœur sensible à Dieu. Et finalement, numéro 8, on peut apprendre aussi l'exemple de Marie, la mère de Jésus, que même si elle n'a jamais connu un homme, même si elle était une vierge, une jeune fille juive, qui venait d'avoir une rencontre avec un ange, qui venait de lui annoncer qu'elle était bénie, qu'elle allait donner naissance à un enfant qui serait le sauveur du monde, même face à toutes ces choses qu'on pourrait dire sont impossibles, elle a laissé la parole de Dieu faire son œuvre. Ça sent la leçon qu'on peut apprendre. Laissez la parole de Dieu faire l'impossible dans votre vie. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » Donc, moi, je pense qu'un homme sage, même les femmes sages, va écouter ces enseignements, va suivre ces modèles, et on va reconnaître que la femme qui est la couronne de la création, la femme qui est le chef d'œuvre de Dieu, qui a une telle influence sur l'humanité, sur la planète Terre, soit pour le bien, soit pour le mal, que cette femme est digne de notre respect, elle est digne de notre honneur, et que tout ce qu'elle nous enseigne à travers son exemple, à travers ses paroles, est digne d'être reçu, et il ne faut jamais le rejeter. Et là, je viens tout juste de te donner 8 exemples, et j'aurais pu te donner 16 ou 24 exemples, des femmes de la parole de Dieu qui nous enseignent les leçons de la vie qui sont indispensables. Donc, M. Dan Brown et les autres qui disent que l'Église et que le christianisme écrase la femme et n'a pas de respect pour la femme, il n'a de toute évidence pas lu la Bible comme il faut. Mais une femme vertueuse, une femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Donc, premièrement, j'aimerais inviter toutes les femmes ce matin à relever le défi de devenir tout ce que le Seigneur veut que vous soyez. Malgré les préjugés, malgré les problèmes de votre passé. Dans le jour de Déborah, il n'y avait pas beaucoup de leaders féminins, mais elle a quand même pris sa place comme mère en Israël. On voit dans le cas de Rahab qui était prostituée, qu'elle n'a pas laissé son passé l'empêcher de faire ce que Dieu voulait qu'elle fasse. Donc aujourd'hui, si vous êtes ici, vous êtes femme, sachez que vous êtes la couronne de la création de Dieu, que vous avez un pouvoir, une capacité incroyable d'influencer, pas juste les hommes dans votre entourage, mais le monde entier. Prenez votre place avec respect et avec honneur pour Dieu et avec respect et honneur pour l'autorité que Dieu a établie dans votre vie. Mais pour tous les messieurs qui sont ici, je vous exhorte à examiner votre cœur. Posez-vous la question, est-ce que vous avez reconnu que la femme est la couronne de la création? Est-ce que vous avez reconnu que la puissance qu'elle a pour influencer, créer les atmosphères, que ça vient de Dieu? Est-ce que vous réalisez que votre attitude par rapport à votre femme, votre mère, et même les autres femmes dans la société peut déterminer si les bénédictions de Dieu vont être bloquées dans votre vie ou si ces bénédictions vont couler? Et est-ce que nous sommes tous prêts à recevoir les enseignements et l'exemple que ces femmes de Dieu, ces femmes de la foi nous ont donné? Est-ce qu'on est prêt à suivre leur exemple, de ne pas rejeter ces enseignements, afin qu'on puisse vivre avec efficacité ici sur la terre, afin qu'on puisse accomplir la volonté de Dieu? Donc, Jean-Charles, si tu peux venir, on va prier ce matin. N'est-ce pas merveilleux de lire ce que Dieu dit dans la parole de Dieu à propos de la femme? J'espère que si vous êtes femme ici, que vous êtes content d'être femme ce matin plus que jamais auparavant. Et j'espère, messieurs, que nous allons avoir une appréciation pour les femmes plus que jamais auparavant. En respect et en honneur pour eux aussi. Alléluia. Merci, Seigneur. Avec tous les yeux fermés. Comme j'ai déjà dit, mesdames, prenez votre place en Jésus. Pas d'une façon autoritaire, mais avec humilité, avec grâce. Soyez la femme que vous êtes créée d'être. Utilisez cette puissance, cette capacité d'influencer les autres avec sagesse. Soyez contente de votre place et votre position, parce que vous êtes la couronne de la création. Messieurs, prenons une décision d'honorer et de respecter la femme. Les femmes qui sont dans notre vie, c'est-à-dire nos épouses, que ce soit nos mères, que ce soit nos filles, mais aussi toutes les femmes de la société, on a besoin. On est dans une société où la femme est exploitée. on voit tellement des choses où la femme est regardée comme une chose, un objet, non pas une personne précieuse. Messieurs, moi j'ai vraiment dans mon esprit, il y a quelques hommes, peut-être plusieurs ici, que vous avez eu une mauvaise attitude par rapport aux femmes. Vous voyez les femmes comme une chose, un objet. Un objet que vous voulez juste utiliser pour votre plaisir. Mais le Seigneur veut que vous sachiez que la femme, c'est la création de Dieu. C'est la couronne de sa création. Et on a besoin de retourner à ces valeurs, même des chevaliers où on peut protéger la femme. On peut protéger la dignité de la femme. Protéger la pureté de la femme. Protéger les femmes dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos gestes. Aujourd'hui, on veut honorer les mères, on veut honorer les femmes. Mais ça commence dans nos pensées, puis avec nos paroles et nos actions. Père, au nom de Jésus, je prie pour chaque homme ici présent qu'on puisse prendre une décision de honorer, de respecter les femmes comme jamais auparavant. Seigneur, on te remercie. Tu fais une œuvre bonne dans notre vie et dans notre Église. On te remercie pour les femmes que tu as placées dans cette assemblée qui ont un rôle indispensable à jouer. On te remercie pour ces femmes qui donnent tellement de leur temps, de leur énergie, qui font des sacrifices pour leur famille, pour l'Église, pour ton royaume. On te remercie pour eux, Seigneur. On les honore aujourd'hui. On les respecte au nom de Jésus. Et avec tous les yeux fermés, j'aimerais juste savoir si ce matin, il y a quelques-uns, parce qu'à tous les dimanches matins, on donne une occasion pour les gens qui viennent à l'Église de donner leur vie à Jésus. Si vous êtes venus ce matin, c'est bon d'apprendre à respecter, honorer les femmes, mais qu'est-ce qui est encore plus important, c'est d'avoir de l'honneur et de respect pour le Fils de Dieu, Jésus-Christ lui-même, qui est venu sur la terre, qui a donné sa vie comme sacrifice, qui a été crucifié, enterré et ressuscité le troisième jour. Et ce matin, si vous êtes là et vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, je vais vous inviter à le faire aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité mort, que tu seras sauvé. C'est un don gratuit que tu ne peux pas mériter. Donc, avec tous les yeux fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui lèverait la main en disant, j'ai besoin de donner ma vie à Jésus? Oui, il y a plusieurs personnes. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelques autres ce matin, vous avez besoin de donner votre vie à Jésus? Seigneur, tu es bon. Tu es bon, tu es merveilleux. Donc, est-ce qu'il y a quelques autres? Seigneur, merci pour ces personnes qui ont levé la main. Je vais inviter ceux qui veulent, vous voulez donner votre vie à Jésus, juste de venir ici en avant ce matin. On va prier. Il y a l'autre invitation, si vous avez besoin d'être baptisé du Saint-Esprit avec l'évidence nécessaire de parler en autre langue, je vous invite à venir aussi ce matin. Je vous venez. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de cela? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Dieu est bon. Vous savez que Dieu vous aime. Alléluia. Et je ne sais pas si c'est la première fois que vous avez donné votre vie à Jésus, ou si pour quelques-uns de vous, c'est une reconsacration à lui. Mais vous savez que la Bible dit que si un pécheur se répand, que tous les anges des cieux se réjouissent. Donc c'est une journée merveilleuse, c'est un moment joyeux maintenant. Moi, j'aimerais qu'on prie une prière avec ces quatre hommes aujourd'hui qui prennent une décision de marcher avec Dieu et qui lui donnent leur vie à Jésus. On va prier cette prière ensemble. Père Céleste, confesse avec ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois de tout mon cœur que Jésus est mort pour moi, qu'il était enterré, qu'il est ressuscité et qu'il vit éternellement. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre pour Jésus. Je vais faire sa volonté. Je vais vivre dans la sainteté. Je vais avoir du respect pour Dieu, pour sa parole, pour sa création. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ces hommes? Alléluia. Vous savez, on a des préposés à l'autel, des personnes en arrière de toi. sont prêts à aller prier avec vous. On a un cadeau qu'on aimerait vous donner aussi, répondre à vos questions. On a une petite salle de prière juste à côté, juste en arrière de l'estrade, juste en arrière de cette porte. Donc, si vous voulez aller avec eux, et on va remercier le Seigneur pour eux ce matin. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. On va se lever debout. Alléluia. Je vous encourage, si votre mère est encore en vie, et si vous avez un moyen de la contacter, de faire quelque chose aujourd'hui, soit de l'appeler, de l'écrire, ou encore mieux, d'aller la voir. C'est bon d'honorer nos parents. C'est bon d'honorer nos mères. Donc encore, Seigneur, merci. Merci pour cette belle journée. Merci pour ces bons versets qu'on a étudiés. Merci, Seigneur, que la femme est la couronne de ta création. Et merci, Seigneur, qu'aujourd'hui, on peut célébrer cette belle fête des mères avec joie, avec honneur, avec respect, au nom de Jésus. Amen. Donc, je vous aime. On va se voir mercredi soir. Donc, je vais aller à la porte pour vous donner la main, mais restez chanter un chant une fois et que le Seigneur vous bénisse.